Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La pandémie de Covid-19 est loin d'être finie, elle s'accélère même. C'est l'avertissement lancé hier par l'Organisation mondiale de la santé, inquiète face à la situation aux États-Unis notamment, mais aussi en Chine.
La Chine, où l'OMS envoie des experts pour découvrir l'origine du virus et tenter d'enrayer une nouvelle vague.
En Guyane, où le virus continue de se propager rapidement, certains médecins n'hésitent plus à parler de crise humanitaire. Nous serons sur place dans un instant.
À la une encore, la doyenne des centrales nucléaires françaises définitivement débranchée.
Fessenheim ne produit plus d'électricité, le démantèlement devrait prendre 20 ans. Une victoire pour les antinucléaires, un crève-cœur pour les salariés et les habitants, vous les entendrez.
Face à la poussée écologiste, l'Élysée mise sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est le thème du billet politique de Frédéric Saïs après ce journal.
Le ton continue de monter entre Paris et Ankara. Emmanuel Macron a accusé hier la Turquie d'avoir une responsabilité historique et criminelle dans le conflit en Libye, en tant que pays qui prétend être membre de l'OTAN. Alors que le nombre de décès a doublé en moins de 2 mois dans le monde, l'OMS met en garde contre tout relâchement face à la pandémie de Covid-19. Le virus continue de faire des ravages aux États-Unis, en Californie, au Texas et en Floride notamment. Mais la contagion progresse au total dans une trentaine d'États sur le sol américain. Signe de prudence, à New York, les théâtres de Broadway resteront fermés au moins jusqu'en janvier 2021.
But it's only intermission, because everyone loves a great second act.
Ce n'est qu'un entracte, disait Lin-Manuel Miranda il y a 2 mois, mais il dure longtemps avant ce deuxième acte et il coûte cher. Les théâtres de Broadway généraient 33 millions de dollars chaque semaine. Les comédiens et chanteurs ont du mal à boucler les fins de mois avec de maigres allocations chômage. La Chine, elle, recense ce matin 19 nouveaux cas, dont 7 à Pékin. La pandémie est donc loin d'être finie, elle s'accélère, prévient l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui va donc dépêcher une équipe en Chine pour déterminer enfin l'origine du virus. Bonjour Zifan Liu.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Pékin. L'OMS veut donc comprendre comment la pandémie a commencé et mieux nous préparer à l'avenir.
Oui, 6 mois après le début de la crise sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé a enfin été autorisée à envoyer la semaine prochaine une équipe à Wuhan, le berceau de l'épidémie, pour en savoir plus sur l'origine du virus. Les experts internationaux devraient s'intéresser de près au marché de Huanan, considéré comme le foyer de l'épidémie. Sur les étables, toutes sortes d'animaux sauvages étaient vendus, allant du serpent à la chauve-souris, sans respect des conditions d'hygiène. Depuis, le marché a été fermé et Pékin a officiellement voté une loi pour interdire le commerce d'animaux sauvages destinés à la consommation. Mais l'origine de la Covid-19 reste très floue, la Chine étant prompte à rejeter toute responsabilité, réfutant même l'idée que l'épidémie se soit propagée depuis ce marché de Wuhan. L'enquête de l'agence onusienne devra déterminer quelle espèce a permis au virus de passer de l'animal à l'homme. Longtemps incriminé, le pangolin, mammifère de la taille d'un chat, prisé des Chinois pour ses écailles, a finalement été innocenté. Le sujet est devenu une pierre d'achoppement dans les relations déjà très tendues entre Pékin et Washington, qui appuie la thèse d'une fuite humaine du virus depuis un laboratoire chinois, sans toutefois avancer de preuves. Une investigation internationale indépendante sur la gestion de la pandémie devrait avoir lieu une fois que celle-ci sera terminée, alors que la Chine fait face à de nouveaux cas de contamination sporadique apparus ce mois-ci dans la capitale chinoise.
Zifan Liu à Pékin pour France Culture. Il est urgent d'enquêter sur l'origine animale de l'épidémie de Covid-19. C'est ce que nous expliquait déjà au mois de mars le professeur Didier Sicard. Entretien à retrouver sur franceculture.fr. Le spécialiste des maladies infectieuses regrettait que la recherche se focalise sur les traitements et les vaccins en négligeant l'origine animale de la pandémie. Une pandémie qui a fait 500 000 de morts, 162 décès rien qu'en Iran en 24 heures. C'est le pire bilan journalier depuis le début de la pandémie pour Téhéran, où la levée des restrictions sanitaires a provoqué un rebond du virus. Et la situation se dégrade très fortement en Guyane, où près de 3800 cas sont désormais confirmés. C'est 1300 de plus que la semaine dernière. Une vingtaine de quartiers de ce département français d'outre-mer font donc l'objet d'un confinement total, lourd de conséquences. Certains parlent de crise humanitaire. Valentin Dunat s'est rendu dans le quartier connu La Mirande à Matoury, à une quinzaine de kilomètres de Cayenne, où des médecins ont installé hier une clinique de campagne.
Ce quartier bidonville où les habitants doivent rester confinés sous des abris de tôle à plus de 30 degrés et 80% de taux d'humidité connaît depuis plusieurs jours une montée en puissance des cas de coronavirus. Des tests sont donc réalisés.
Allez, j'enlève. D'accord, c'est fini.
Catherine Oliviero est coordinatrice médicale infirmière à Médecins du Monde.
Sur une dizaine de tests qu'on faisait, il s'en est révélé 5 positifs. Et puis, donc du coup, le 10 juin, on a fait une activité sur un des quartiers. Et en fait, on a dépisté donc 30 personnes qui étaient 30 positifs. Sur ce quartier-là.
Au-delà de ces chiffres qui prouvent que le virus se propage rapidement, il y a des vies bousculées. Les habitants n'ont plus de petits boulots, quasiment pas de transport, ils peinent à se nourrir. Pierre-Jean Gérard habite le quartier, il est bénévole à l'association DAC Guyane. Tous les jours, il reçoit des dizaines d'appels.
Et je suis en train de parler avec les journalistes de France. D'accord ? Ok, tout à l'heure, je t'appelle. Quand il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'ai faim », même lorsque moi j'ai faim, ça me fait mal. Avant, c'était toujours la misère, mais avec le coronavirus, c'est beaucoup de notation. C'est vraiment difficile. C'est vraiment beaucoup de misère. Beaucoup de misère.
Derrière la propagation du virus, il y a une situation que certains n'hésitent plus à définir comme une crise humanitaire.
Je pense que oui, c'est le mot. Il y a une crise humanitaire en Guyane.
Un reportage signé Valentin Dunat, envoyé spécial de France Culture en Guyane avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Sur la gestion de la crise sanitaire encore, 4 anciens ministres de la Santé vont être auditionnés cette semaine par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Agnès Buzyn ouvre le bal aujourd'hui à 17h, la grande perdante des municipales à Paris. Un combat électoral pour lequel Agnès Buzyn avait brusquement lâché le ministère à la mi-février, alors même que l'épidémie commençait à monter en France. La France était prête, avait-elle expliqué à l'époque. Son successeur, Olivier Véran, a lui proposé hier une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers, insuffisant pour les syndicats et les collectifs de soignants qui exigent eux 7 milliards d'euros. Les syndicats annoncent à quelques jours de la clôture du Ségur de la Santé une nouvelle manifestation aujourd'hui dans plusieurs villes de France, à Lorient notamment, Nancy, Toulon ou encore Mont-de-Marsan.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Une page se tourne dans l'histoire du nucléaire français, Fessenheim. Doyenne des centrales ne produit plus d'électricité.
Après la mise à l'arrêt du premier réacteur en février, le second a été définitivement déconnecté du réseau cette nuit. Un soulagement pour les écologistes qui se battent depuis la mise en service de Fessenheim en 1977 pour réclamer sa fermeture. André Hatz, président de Stop Fessenheim.
Bien sûr, c'est un jour qu'on attend depuis la construction de la centrale. Ça fait 50 ans qu'on attend ce jour-là. C'est évident. Nous sommes heureux, heureux et inquiets. Heureux de l'arrêt définitif de la centrale nucléaire, inquiets du combustible qui séjournera encore pendant 3 ans dans des piscines non bunkérisées, sans avoir les moyens de secours qui seraient pourtant indispensables. Mais bon, dans 3 ans, toute l'Alsace, tout le Pays Bas, toute l'Europe sera soulagée par rapport à Fessenheim.
Ainsi André Hatz, le président de Stop Fessenheim, crie victoire au micro de Patrick Janton de France Bleu Alsace. La fermeture de la centrale nucléaire est vécue comme un crève-cœur pour les quelques 150 familles de salariés qui font leur carton avant de quitter la petite bourgade alsacienne. Le reportage de Sébastien Sabiron.
Il y a 6 ans, Jean-Christophe Rouault quittait Brest pour Fessenheim avec femme et enfant. Aujourd'hui, la famille s'apprête à repartir dans l'Ouest. L'ingénieur nucléaire est reclassé à la centrale de Chinon, muté comme beaucoup de ses collègues qui ont déjà quitté Fessenheim.
Nos voisins sont partis, on a perdu pas mal d'amis depuis le début de la phase de fermeture. Ça fait bizarre de voir les maisons qui se vident en face. On se retrouve avec des maisons avec les volets fermés. On perd nos amis, donc forcément, même les week-ends sont un peu plus tristes.
Un changement de vie difficile pour la famille et particulièrement pour l'épouse de Jean-Christophe, directrice de crèche.
Comme elle ne fait pas partie du groupe EDF, donc c'est toujours plus compliqué de retrouver un emploi après. Donc là, comme la période Covid n'a pas trop aidé non plus, il y aura une période où effectivement elle sera sans emploi et donc sans salaire. Donc ça met une petite tension, même au niveau des couples un peu.
Promesse de campagne du candidat Hollande en 2012, la fermeture de la centrale est actée depuis 2017. Une décision toujours incomprise par les salariés.
Pour tous les employés ici sur le site, c'était un énorme gâchis de fermer cette centrale qui fonctionnait très bien, qui produisait une électricité décarbonée. C'est vrai que là, on est en pleine période de deuil. Moi, j'ai passé 6 ans seulement ici. Mais déjà, je ressens une certaine émotion. Donc, j'imagine très bien les gens qui ont 30 ans de bouteille. On voit bien que c'est difficile pour eux aussi.
Avec 700 salariés et près d'un millier de sous-traitants, la centrale faisait vivre la région. 70 agents EDF resteront sur place pour le démantèlement.
Le démantèlement inédit qui devrait durer 20 ans. Une victoire donc pour les écologistes après un autre succès dans les urnes. Cette fois, c'était dimanche. Les Verts ont remporté des villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Strasbourg et Poitiers, il salue les propositions retenues hier par le président de la République après la Convention citoyenne pour le climat. Des Verts qui regrettent qu'Emmanuel Macron ait refusé trois mesures, la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, le changement du préambule de la Constitution et l'idée d'une taxe de 4% sur les dividendes des entreprises. Mais sur un sujet, Emmanuel Macron a été plus volontariste, la bétonisation des périphéries ou l'artificialisation des sols. Le chef de l'État a adopté un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. C'est aussi le cheval de bataille de Pierre Urmic, le nouveau maire vert qui a pris Bordeaux à la droite dimanche, dans une ville déjà très minérale mais en plein boom de l'immobilier. Willy Moreau.
Quasiment aucun panneau à vendre ou à louer sur les fenêtres des immeubles. Beaucoup de demandes, mais peu d'offres. À Bordeaux, les loyers ont bondi de 10% l'année dernière. Sylvain, un habitant, a vu la situation se dégrader.
On a grandi, nous, sur une génération, tous étaient étudiants à Bordeaux, où on pouvait se loger quand on était étudiant. On est parents, même d'enfants, on gagne sa vie correctement. Et on ne peut pas loger nos enfants pour être étudiants à Bordeaux.
Pour limiter cette bulle immobilière, plusieurs projets prévoient la construction d'au moins 10 000 logements. Des projets qui prennent déjà en compte l'artificialisation des sols, selon l'urbaniste Benjamin Sandré.
La plupart des sites sur lesquels s'inscrivent les nouveaux projets sont en fait d'anciennes friches urbaines ou industrielles, qu'il convient de toute façon de se réapproprier et de transformer afin de produire de nouvelles zones de logements, de bureaux, d'activités.
Le nouveau maire Pierre Urmic veut néanmoins interdire pendant son mandat des constructions sur les espaces verts et mobiliser les logements vacants.
Il y a 11 000 logements vides à Bordeaux. Il y en a qui le sont pour de bonnes raisons. Il y en a qui le sont beaucoup moins. C'est vrai qu'à Bordeaux aujourd'hui, l'augmentation du prix du foncier est telle que même avec un logement vide, vous gagnez de l'argent.
Pierre Urmic souhaite également accompagner financièrement la rénovation de certains logements pas aux normes pour encourager les propriétaires à les louer.
Willy Moreau à Bordeaux pour France Culture. Après les municipales et la prise donc par les écologistes de plusieurs villes comme Bordeaux, Lyon et Strasbourg, il ne s'agit pas de tirer de conséquences excessives de scrutins qui sont d'abord locaux, a commenté hier soir Emmanuel Macron. C'était lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel près de Berlin. Une conférence de presse où le président français a également accusé la Turquie d'avoir dans le conflit libyen une responsabilité historique et criminelle en tant que pays qui prétend être membre de l'OTAN. La multiplication des incidents maritimes entre la flotte turque et les marines françaises, grecques et italiennes est aujourd'hui un défi pour l'Union européenne et l'OTAN. Les précisions de Christian Chesneau.
C'est une véritable bataille navale qui se joue en Méditerranée entre Turcs et Européens. Dans cette joute maritime inédite, les 27 semblent impuissants à contrer les ambitions d'Erdogan, sans parler de l'OTAN aujourd'hui paralysé, constate Nicolas Grovered, journaliste responsable du blog Bruxelles 2.
Si les Européens sont un peu hagards vis-à-vis de la Turquie, alors l'OTAN est totalement pétrifiée, gélifiée, puisqu'il y a des débats très durs, parce qu'on parle de la France avec la Turquie, mais il y a des débats très durs entre Grecs et Turcs qui sont théoriquement alliés, qui sont au bord, pas de l'affrontement armé, mais on est dans une semi-mobilisation grecque vis-à-vis des Turcs. Je pense qu'on va parler dans les prochaines années du problème turc.
Cette percée de la Turquie qui a posé le pied en Libye est un défi pour les Européens et l'OTAN. Au Quai d'Orsay, on considère que cette présence militaire turque sur le flanc sud de l'Europe représente une menace sécuritaire très forte et une source de grande inquiétude. À Bruxelles, personne ne veut que la tension militaire en Méditerranée ne dégénère, mais dans ce bras de fer, l'Europe a peu de moyens de pression sur Ankara, qui peut ouvrir les vannes des migrants syriens quand bon lui semble.
Les batailles navales au large de la Libye, c'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr. La Turquie a effectivement déclaré de nouveau que ses frontières terrestres avec l'Europe étaient ouvertes. Représailles face aux tensions avec les 27. Et les ONG, elles, ont repris la mer il y a 2 semaines maintenant. L'Ocean Viking, depuis 1 semaine à peine. Mais il a très vite secouru des dizaines de migrants. Cela fait maintenant 5 jours que ce navire humanitaire réclame un port pour accoster et libérer, en quelque sorte, les 118 migrants qui se trouvent à son bord. Mais ni l'Italie ni Malte n'ont encore répondu à cet appel. Notre envoyé spécial à Lampedusa, Bruce de Galzin, a réussi à joindre l'équipage de l'Ocean Viking.
Il y a eu une première barque en bois avec 51 personnes à bord, puis très vite une deuxième en bois toujours avec 67 autres migrants. Ils ont embarqué il y a plus d'une semaine en Libye à quelques 200 km de Lampedusa et viennent du Bangladesh, du Pakistan, d'Érythrée et du Maroc. Laurence Bondard, la porte-parole de SOS Méditerranée, est à bord de l'Océan Viking.
Il y a cette personne qui m'a montré comment elle s'était fait casser le pied et la jambe à coups de barre de fer pour lui extorquer de l'argent. Cette autre personne m'a raconté comment elle s'était fait kidnapper juste à son arrivée dans le pays et affamée. C'est absolument inhumain.
En pleine crise sanitaire, chaque migrant s'est plié aux nouvelles règles. Prise de température, port du masque. Les sauveteurs de SOS Méditerranée sont eux en combinaison avec des gants, masques et lunettes sur le visage.
On a dû imaginer des solutions pour humaniser un petit peu tout ça. On a notamment confectionné des badges avec des photos de nous souriant, nos prénoms, et ça leur permet de voir qui nous sommes derrière nos masques et nos lunettes.
Les 118 migrants à bord sont installés sur le pont arrière du navire, sous abri, mais sous la chaleur aussi. Cette nuit, l'un d'entre eux, pris de fièvre, a été évacué par les gardes-côtes italiens.
Le comité permanent du Parlement national chinois a adopté ce matin la loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. C'est ce qu'ont annoncé des médias du territoire semi-autonome, faisant craindre une répression de toute opposition politique dans l'ex-colonie britannique. La loi devrait être officiellement promulguée demain, date anniversaire le 1er juillet de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par les Britanniques. YouTube a supprimé des chaînes suprémacistes pour avoir enfreint de façon répétée ses règles en affirmant, par exemple, que certains groupes d'individus étaient inférieurs à d'autres. C'est ce qu'a indiqué hier la plateforme de vidéos de Google. Et puis Twitch et Reddit prennent des mesures similaires contre des comptes soutenant Donald Trump aux États-Unis. Le temps de ce mardi 30 juin marqué par des nuages et des averses dans la moitié nord de l'Hexagone, du soleil partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fera entre 18 et 27 degrés sur la moitié nord du pays, 25 à 30 en moyenne au sud, jusqu'à 35 cet après-midi près de la Méditerranée. Guillaume Merlin.
Merci Catherine Dutu, 8h16.